Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manerakis à la présentation de cette édition du mercredi 12 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a prêté serment pour un sixième mandat. À Anyama, dans le district d'Abidjan, célébration de la fin du Ramadan, la fête de l'Aïd El-Fitr.
Je souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans du monde entier, particulièrement à la population d'Anyama, côté de Djéné, de Bouaké et de Djoukoui.
Le Hamas confirmait la mort de plusieurs de ses commandants dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Aux États-Unis, Liz Cheney, critique de Donald Trump, évincé de la hiérarchie du Parti républicain à la Chambre des représentants. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en janvier pour un sixième mandat, a prêté serment aujourd'hui lors d'une cérémonie à Kampala, sous haute sécurité afin d'éviter toute manifestation de l'opposition. Nathalie Barge.
Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour cette cérémonie à laquelle ont assisté 11 chefs d'État africains, dont ceux du Burundi, de la République démocratique du Congo et de la Guinée, avec l'absence remarquée de Paul Kagame du Rwanda. Les résidences des opposants Bobi Wine et Kizza Besigye ont été encerclées par des policiers et des militaires. Le porte-parole de la police, Fred Enanga, a déclaré que M. Wine avait tenté d'organiser une prestation de serment parallèle alors que c'est illégal. La campagne électorale a été marquée par le musellement des candidats de l'opposition. En novembre, au moins 54 personnes ont été tuées lors de violences déclenchées par une énième arrestation de M. Wine. L'opposition affirme que les forces de sécurité ont enlevé plusieurs de ses partisans. Après avoir démenti, le président Museveni et son gouvernement ont admis que des personnes accusées de complot contre l'État étaient détenues par l'armée et des agences de sécurité.
Le médiateur de la CEDEAO au Mali a indiqué mercredi que les autorités de transition à Bamako risquaient de devoir fixer des priorités étant donné le peu de temps qui leur reste pour mener à bien une transition censée amener les civils au pouvoir début 2022. Les autorités ont annoncé un calendrier électoral avec un premier tour d'élections présidentielles et parlementaires le 27 février 2022 ainsi qu'un référendum constitutionnel le 31 octobre 2021. Près de 200 Tchadiens de partis se réclamant de l'opposition ont manifesté mercredi à N'Djamena leur soutien indéfectible au pouvoir militaire dirigé par Mahamat Idriss Déby, le fils de l'ex-président tchadien. Il s'agit de la première manifestation autorisée par le Conseil militaire de transition qui dirige le pays depuis le 20 avril suite à la mort du maréchal Idriss Déby. Au Soudan, deux personnes ont été tuées à Khartoum dans la dispersion musclée d'un rassemblement. Les manifestants réclamaient justice pour leurs compatriotes morts lors de protestations populaires ayant conduit au départ du président Omar El-Béchir en 2019. Mohamedou Oumfa.
Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées mardi soir devant le quartier général de l'armée, à l'endroit où des milliers de personnes se sont rassemblées en 2019 pour réclamer l'éviction du président Omar El-Béchir et le transfert du pouvoir aux civils. La manifestation a débuté peu avant l'iftar, le repas de rupture du jeûne pendant le Ramadan. Des jeunes ont porté des banderoles ou ont affiché des photos des personnes tuées lors du sit-in de 2019. Certains scandaient « Justice pour les martyrs ». Dans un discours, un manifestant a appelé à de nouveaux rassemblements si le gouvernement ne présentait pas les résultats de l'enquête sur les meurtres de 2019 dans les prochaines semaines. L'armée a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le premier ministre Abdallah Hamdok s'est dit choqué par la mort des deux manifestants, dénonçant comme un crime les tirs à balles réelles contre un rassemblement pacifique.
La France a déploré mercredi une instrumentalisation de l'arrestation à Bangui d'un Français détenteur, selon les autorités centrafricaines et leur soutien russe, d'un arsenal de guerre. Le Quai d'Orsay a indiqué qu'il bénéficie de la protection consulaire de l'ambassade de France sur place. Ce ressortissant français avait travaillé dans plusieurs organisations en Centrafrique comme garde du corps, selon des sources humanitaires. En RDC, la chef de MONUSCO, Bintou Keïta, a dit mercredi vouloir clarifier le rôle de chaque acteur pendant l'état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi dans l'est du pays. Mardi, deux généraux ont pris leurs fonctions à la tête du Nord-Kivu et de la province voisine Ituri. Dans sa rencontre avec ses nouvelles autorités militaires de la province du Nord-Kivu, il a été question du partenariat entre le gouverneur et le vice-gouverneur et les collègues de l'ONU qui sont basés à Goma et ceux qui sont aussi basés à Beni. Plus de 20 Congolaises ont affirmé avoir été victimes d'abus sexuels sous forme de chantage à l'emploi par des travailleurs humanitaires dans l'est de la RDC, selon une enquête de l'agence The New Humanitarian et la Thomson Reuters Foundation publiée mercredi. 14 de ces femmes ont déclaré que les hommes se sont identifiés comme étant des travailleurs de l'OMS, indique cette enquête. L'OMS s'engage à prendre des mesures rapides et énergiques au cas où son personnel pourrait être reconnu coupable d'avoir perpétré des abus, a déclaré sa porte-parole Marcia Poul. Emmanuel Macron recevra mardi à Paris une quinzaine de dirigeants africains, plusieurs responsables européens ainsi qu'une dizaine de représentants d'organisations internationales pour un sommet sur la relance de l'économie en Afrique. La France propose de faire profiter l'Afrique de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, des instruments de change qui permettent de financer des importations.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité politique américaine, les républicains ont évincé Liz Cheney de leur hiérarchie aujourd'hui, l'élu étant devenu la bête noire de l'ancien président Donald Trump. Le point avec Jacques Aristide.
C'était un vote à l'oral et à huis clos. Les 212 républicains de la Chambre des représentants ont en quelques minutes écarté Liz Cheney de son fauteuil de numéro 3 du parti, ce qui témoigne de la profonde influence que conserve Donald Trump sur son camp politique. Elle n'a aucune personnalité et n'a rien à apporter de bon à notre vie politique ou à notre pays, a commenté l'ancien locataire de la Maison Blanche dans un communiqué. Réaction également de Liz Cheney juste après le verdict: je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que l'ancien président ne s'approche plus jamais du bureau ovale. À 54 ans, Liz Cheney, la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, figurait parmi les 10 républicains de la Chambre à avoir voté pour la mise en accusation de Donald Trump après l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier. L'ex-président a ensuite été acquitté par le Sénat. Pour la remplacer, Donald Trump et Kevin McCarthy, qui est à la tête de la minorité républicaine à la Chambre, soutiennent Elise Stefanik, 36 ans, devenue l'une des grandes voix pro-Trump au Congrès. Le vote pour la nommer pourrait néanmoins être repoussé de plusieurs jours sous la pression de conservateurs irrités de voir à cet élu propulsé numéro 3 sans débat.
Un juge a retenu plusieurs circonstances aggravantes contre le policier Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de l'Africain-américain George Floyd. Le policier a abusé de sa position de confiance et d'autorité, a traité George Floyd avec une grande cruauté, a agi en présence de 4 enfants et a commis son crime en réunion, écrit le juge Peter Carril, ce qui ouvre la voie à l'imposition d'une lourde peine. Plus de 1000 roquettes tirées vers Israël, des frappes continues sur la bande de Gaza et au moins 58 morts. L'affrontement armé entre le Hamas et l'État hébreu ne donne mercredi aucun signe d'apaisement. Marius Muhunga.
Aucune trêve n'est envisageable et tant qu'un calme durable n'est pas assuré, a prévenu le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, lors d'une visite dans la ville israélienne d'Ashkelon, touchée par une salve de roquettes. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré l'état d'urgence dans la ville de Lod, qui a été le théâtre d'émeutes de la minorité arabe. Dans un communiqué, le Hamas a annoncé la mort de Bassem Issa, chef de la branche militaire, et des nombreux autres responsables dans les frappes israéliennes. Israël et le Hamas se dirigent vers une guerre à grande échelle, a déclaré mardi l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland. Les présidents russes et turcs, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, ont fait part de leurs profondes préoccupations et appelé à la désescalade. Le Conseil de sécurité de l'ONU se prépare à une nouvelle réunion d'urgence. Sa première réunion de lundi s'est terminée sans aucune déclaration.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nous enchaînons directement avec votre page des sports, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. NBA, pour commencer, le Camerounais Joel Embiid, malade, et ses coéquipiers des Sixers doivent attendre pour leur première place. Porté par un Caris Levert en verve 24 points, les Indiana Pacers ont empêché Philadelphie, battu 103-94, mais qui a déjà son billet en poche pour les playoffs, d'assurer la première place de la conférence Est. De leur côté, les Los Angeles Lakers ont eu raison de New York sur le fil 101-99. Dans les autres matchs, Miami Heat, quatrième à l'Est, a assuré sa place en playoff en l'emportant face aux Celtics, 129-121, sa 10e victoire en 13 matchs. Charlotte est sûre d'être barragiste malgré sa défaite contre Denver, 112-117. Chicago s'est incliné face à Brooklyn, 107-115. Golden State a surpris les Phoenix Suns, 122-116. Les Dallas Mavericks, déjà qualifiés pour les playoffs, cèdent leur 5e place à l'Ouest à Portland après leur défaite 133-104 à Memphis. Sur le continent, nous poursuivons notre série sur la présentation des équipes qui prendront part à la toute première édition de la Basketball Africa League prévue à Kigali au Rwanda du 16 au 30 mai. Nous commençons ce soir par le club camerounais FAP, Marius Muhunga.
Créé en 1972 à Yaoundé, Force Armée et Police Basketball, connue sous le nom de FAP Yaoundé, est l'équipe de basketball de Forces Armées et de la Police camerounaise. En novembre 2019, après avoir battu Abidjan Basketball en demi-finale du tournoi qualificatif dans la division Ouest, FAP représente le Cameroun à la première édition de la nouvelle Basketball African League. Les Camerounais ont réussi leur premier tour des éliminatoires, mais ont mieux fait au second. Sur le plan national, en 2020, FAP a remporté son premier titre de la compétition camerounaise, élite messieurs, pendant laquelle le club est resté invaincu tout au long du tournoi. Pour le Basketball African League, FAP peut compter sur son entraîneur, Lazare Adingono, l'américano-camerounais, qui est l'ancien joueur de basketball.
FAP du Cameroun partage le groupe B avec l'AS Police du Mali, l'AS Salé du Maroc et Petro Luanda. Zoom sur les Angolais avec Bagassi Koura.
Le club angolais de basketball Petro Luanda fait partie des plus anciens clubs de basket du continent. Fondé en 1980, il a depuis lors raflé de nombreux trophées nationaux et internationaux, avec notamment une douzaine de fois la Coupe d'Angola entre 1990 et 2014. Le club fait partie des poids lourds donc du continent en matière de basketball, ayant remporté deux fois le titre de champion d'Afrique FIBA. Son coach, le Brésilien José Neto, compte sur une équipe relativement jeune mais expérimentée, avec une taille moyenne de joueurs estimée à 1,94 m et une moyenne d'âge de 27 ans. Parmi les joueurs à surveiller, le jeune ailier de 22 ans, Melvin Da Silva, transfuge en 2020 du club français Vichy Clermont, le meneur de jeu américain Antoine Scott ou encore l'ailier fort Aboubakar Gakou.
Autre champion de la FIBA Africa Champions Cup, logé dans ce groupe B, les Marocains de l'AS Salé, que nous présente Michel Joseph.
Le Maroc est représenté à cette Basketball Africa League à travers l'association sportive Salé. Fondée en 1928 et 7 fois championne nationale, l'équipe a joué dans la division Excellence, le championnat d'élite, pendant de nombreuses années, mais n'a remporté son premier titre de champion qu'en 2010. En 2017, Salé monte sur le toit de l'Afrique, sacré vainqueur de la FIBA Africa Champions Cup, le premier titre international du club. L'année suivante, l'équipe est encore en finale dans cette même compétition, mais cette fois, la marche a été trop haute pour elle face au club le plus titré du continent, Primero de Agosto d'Angola. Les Marocains ont arraché leur ticket pour la balle en tant que champions nationaux 2019. Sous les ordres du coach Saïd El Bouzidi, celui-là même qui leur a offert leur titre continental en 2017, l'AS Salé compte sur des joueurs expérimentés de l'équipe nationale marocaine comme Abderrahim Naja, Zakaria El Masbahi et Soufiane Kourdou.
Merci Michel.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manera Kizador, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, une marche de soutien au conseil militaire de transition présidé par le général Mahamat Idriss Déby a été autorisée à N'Djamena. C'est une initiative d'une plateforme dénommée Vision Nouvelle qui regroupe des partis politiques et des organisations de la société civile. Une marche hautement encadrée par les éléments de la police nationale. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Cette sirène d'alarme qui résonne tout le long de l'avenue Tomarbaï n'avertit pas le passage d'une ambulance, moins encore annonçant le passage d'une autorité. C'est le cortège des marcheurs arpentant cette avenue. Ils brandissent des pancartes et banderoles où on peut lire, entre autres, « Semons la paix pour récolter la bonne cohabitation et la sauvegarde de la patrie. Oui pour la paix et à la stabilité. Oui à la concorde nationale et non à la violence. » Tout en invitant les acteurs politiques à prôner le dialogue, le vice-président des Visions Nouvelles, Nassour Abdelkirim, lance un appel aux autorités de transition en ces termes.
La plateforme Vision Nouvelle recommande et encourage le conseil militaire de transition à respecter ses engagements contenus dans la charte de transition afin de garantir l'intégrité territoriale du Tchad, à préserver la paix, à consolider la cohésion sociale, à renforcer la stabilité politique, l'unité nationale du Tchad et de continuer sa lutte contre le terrorisme.
La paix et la stabilité, c'est ce qui est sur toutes les lèvres des manifestants composés en majorité de femmes et des enfants qui ont marché 4 km environ pour arriver au palais du 15 janvier où les attendaient les organisateurs de cette marche.
J'ai assisté à mon enfance, l'événement de 79, 82, 10 février, 13 avril et la récente événement. Donc, moi,
je ne soutiens personne, je veux les stabilité et la paix. Nous, on veut éviter le système ancien de 31 ans.
On soutient cette transition militaire, c'est vrai. On peut proposer un président civil, mais la situation qui est là aujourd'hui ne nous permet pas. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que la transition ne doit pas dépasser les 18 mois. Sur ce point, nous, on ne discute pas.
Selon des indiscrétions, les organisateurs de cette marche ont mis les moyens pour mobiliser les militants. Des bus de transport en commun ont été loués et mis à la disposition de chaque organisation qui mobilise sa base. Cette dame qui requiert l'anonymat explique n'avoir rien reçu comme prix en charge.
Mais les éléments ne sont pas arrivés là. Ils m'ont rien donné, je ne sais quoi faire. Qu'est-ce que je vais demander ici à des gens là? Ils vont donner du pour le déplacement. Maintenant, je vais rentrer.
Le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, membre de la coalition Wakitama, Mahamad Nouri Bedou, dénonce la politique de deux poids, deux mesures qui caractérise les autorités tchadiennes depuis Belle Lurette.
Nous savons qu'une marche pareille va toujours être autorisée, encadrée, tout ce que vous voulez. Le système est le même. Monsieur Idriss est mort, mais ce système est là, avec tout le mode opératoire. Donc, ça ne nous étonne pas du tout. De toute façon, nous estimons que la Constitution autorise une marche pacifique. Le problème, c'est simplement d'informer les autorités sur l'itinéraire. Mais nous estimons que ce n'est pas un arrêté qui va interdire une marche autorisée par la Constitution. Nous allons toujours braver toute interdiction parce qu'elle est illégale pour nous.
Pour la marche de ce jeudi, les éléments de force de défense et de sécurité déployés pour l'encadrer sont plus nombreux que les marcheurs eux-mêmes. André Kodmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM, au Tchad.
Au Cameroun, la police accuse un détenu d'avoir usurpé l'identité de président africain. La police a déclaré que le suspect s'est fait passer l'an dernier pour le président camerounais Paul Biya et avait escroqué l'ambassade du Niger pour une somme d'argent qui n'a pas été divulguée. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka, récit Claire Morin-Gibourg.
Le détenu Jacques Calvin Eyafa est attaché à un fauteuil roulant à la prison de sécurité maximale de Yaoundé depuis 2 ans. Pourtant, selon les autorités, cela ne l'a pas empêché de continuer à voler de l'argent par téléphone. L'officier de police judiciaire, Vincent de Paul Meva, dit que M. Eyafa est accusé d'avoir utilisé un téléphone portable de contrebande pour se faire passer pour des fonctionnaires et pour le président camerounais Paul Biya. M. Meva affirme que ces imitations étaient tellement bien faites que l'ambassade du Niger au Cameroun n'a pas hésité à lui remettre une somme d'argent non divulguée l'année dernière avant son arrestation.
Le délégué général a été saisi par le président de la République qui disait qu'il y a un nouveau téléphone qui a appelé le chef d'État nigérien se faisant passer pour le ministre du cabinet civil et qu'il a agité sur l'instruction du président Paul Biya qui voulait parler avec son homologue nigérien. Et c'est par la suite que le président nigérien, quand il cherchait à vérifier, on s'est rendu compte qu'il s'agissait ni du président du cabinet civil ni du chef de l'État. Après avoir géolocalisé le numéro, on s'est rendu compte qu'il le numéro émet à partir de la prison centrale de Kondigi. Il a reconnu avoir appelé le chef d'État nigérien.
Vincent de Paul Meva raconte que cette perquisition a conduit Yafa en prison et qu'il purge une peine d'emprisonnement de 3 ans pour une fausse agence de placement qui a promis des emplois moyennant des frais. Selon la police, M. Eyafa a imité la voix du président Biya dans les appels où il a promis qu'il demanderait aux Nigériens du Cameroun de voter pour Mahamadou Issoufou lors des élections de décembre pour une somme d'argent. L'ambassade du Niger à Yaoundé a confirmé que les personnes qu'elle croyait être le président Biya et d'autres responsables de l'État les ont appelés et ont fait des recherches, mais ils ont refusé d'entrer dans les détails. M. Meva précise que M. Eyafa a demandé à l'ambassade de lui donner le numéro personnel du président Issoufou. Il affirme également qu'Eyafa est soupçonné d'avoir tenté de tromper plusieurs dirigeants africains francophones, des groupes d'aide internationaux et des entreprises privées. M. Meva n'a pas précisé le montant d'argent qu'Eyafa a reçu par transfert d'argent mobile depuis le Niger et n'a nommé aucune autre victime. Catherine Penda, qui possède une entreprise de construction de routes appelée Construct Cameroun, dit que M. Eyafa l'a escroqué d'une énorme somme d'argent.
Ils sont tellement bien organisés que tu as vraiment l'impression que c'est eux. Cette période-là, je n'avais pas d'emploi. Et où je me suis dit, s'ils m'écrivent, ça veut dire que peut-être qu'ils me connaissent les gens, que nos services de l'ordre puissent prendre le dossier à main, avoir un numéro qu'on peut appeler au cas où on est victime de ce genre d'usurpation.
La police camerounaise a déclaré qu'elle enquêtait sur un réseau d'imposteurs prétendument dirigé par Eyafa qui usurpe et trompe des hauts fonctionnaires et des investisseurs dans les États d'Afrique centrale. Germain Tonotsimi, professeur de droit à l'université de Yaoundé, affirme qu'Eyafa pourrait être condamné à 40 ans de prison supplémentaire s'il est reconnu coupable.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire, on célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. La journée est marquée par de grandes prières et des moments de partage de repas en communauté. Reportage à Anyama, dans le district d'Abidjan, avec notre correspondante Aïcha Diara.
La grande mosquée d'Anyama a eu du mal à contenir tout ce monde des grands jours. Plus de 1000 fidèles sont sortis pour la prière de l'Aïd dans la grande cour de l'école primaire publique Plateau d'Anyama. Dans son serment, l'imam de la grande mosquée d'Anyama, Saïd Diaby, parle du pardon mutuel comme moyen de paix, de réconciliation et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est une communauté musulmane qui célèbre cette journée entre joie et bénédiction partagée.
Je souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans du monde entier, particulièrement à la population d'Anyama, côté de Djéné, de Boaké et de Diokoué. Je suis très contente que Dieu nous accorde plein de Ramadan dans la santé et surtout la paix.
Aujourd'hui, c'est la fête du Ramadan. Donc, je souhaite bonne fête du Ramadan à tous mes frères musulmans et à toutes mes sœurs musulmanes. Je prie le bon Dieu pour que, à la façon que nous, l'année prochaine, nous trouvions en bonne santé et dans les bonnes mains de Dieu aussi. Inch'Allah.
Que la joie dans le cœur, rien que de voir dans la santé, de voir que tu es en bonne santé, tu te réveilles et puis tu es dans la fête, tu vois tout le monde, la belle mère, la belle famille, toi-même ta propre famille, quoi. C'est la joie, en fait.
Au nom des invités à cette grande prière à Anyama, le curé de la paroisse Notre-Dame d'Anyama, le père Zongo Mathieu.
C'est un honneur. Je suis venu exprimer toute la solidarité, toute l'amitié de la communauté chrétienne catholique à nos frères musulmans qui sont en fait, c'est Dieu qui nous rassemble et donc on se fait ce plaisir de venir prier avec vous et demander au Seigneur d'exaucer vos voeux. La religion, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui nous relie à Dieu et puis ce qui nous relie entre nous.
Avec 278 cas actifs à la COVID-19 en Côte d'Ivoire, représentant l'État ivoirien en ce lieu de pénitence, le sous-préfet de la commune d'Anyama, Kwaku Kwaku Michel, attire l'attention de la population sur les risques liés au non-respect des mesures barrières et aussi et surtout la gratuité du vaccin de la COVID-19 en Côte d'Ivoire, en se présentant comme un exemple de personne vaccinée qui pourtant est en bonne santé.
La pandémie du coronavirus n'est pas encore terminée. Je nous dis avec un pincement au cœur qu'il n'y avait pas beaucoup qui avaient leur protège, mais vaccinés. On ne le fait pas parce qu'on en a envie, on le fait parce que c'est une nécessité sociétale. Redoublons d'efforts. Allez-y vous faire vacciner.
Aïcha Diarra, Anyama, Abidjan. Pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République démocratique du Congo, des militaires sous le coup d'action judiciaire pour des massacres présumés dans le Kasaï ont été nommés pour conduire les opérations dans l'est du pays. Des défenseurs des droits de l'homme demandent au président Félix Tshisekedi de revoir ses nominations. Eddy Issango a joint à Kananga le bâtonnier Dominique Kambala, directeur de l'ONG Société Congolaise pour l'État de droit.
La société congolaise soutient totalement la décision de la plus haute autorité du pays, consistant à classer l'Ituri et le Nord Kivu en état de siège. Nous sommes tout à fait derrière cette décision, nous la soutenons totalement, mais nous avons quand même alerté parce que le Sud Kivu n'est pas en état de siège, mais nous avons vu qu'il y a, au niveau de la police, on a élevé un officier qui est soupçonné dans des violations de droits d'homme dans les événements du Kikasai et aussi au Nord Kivu. Nous avons fait cette alerte-là. Et je pense que cette alerte-là a vaut la peine pour que bon, voilà, ce qu'on reprocherait au Kansai ne puisse pas se répéter. Qu'on fasse le travail pour ramener effectivement la paix dans le respect des droits de l'homme.
Il y a 3-4 ans que les tueries du Kansai ont eu lieu, mais pourquoi seulement maintenant que vous publiez votre communiqué?
Non, les tueries du Kansai, on ne va pas les oublier. Les dossiers sont en train d'être instruits. Il faut absolument que cesse au pays le règne de l'impunité. Il faut que la vérité soit faite sur tout ce qui s'est passé au Kasaï, à Mulombodi, à Nganga, à Kisuku, et tous les cas d'incidents, tous les incidents majeurs, emblématiques, qui ont été sélectionnés dans le cadre de la politique de poursuite. Donc il faut absolument que l'état de droit, la paix ne peut pas revenir avec le reste de l'impunité. Il faut quand même qu'on puisse savoir ce qui s'est passé et que tous les auteurs répondent de leurs responsabilités, que les victimes obtiennent juste réparation.
Comment voyez-vous qu'on puisse arriver à concilier l'urgence de mettre fin aux tueries dans l'Est et ces besoins de justice? Comment voyez-vous qu'on puisse concilier les deux? Que maintenant, l'armée n'a pas d'autre élite que celle que l'on a. Certains lui reprochent d'avoir des gens qui sont venus des groupes rebelles. Bon, mais maintenant, il y a une urgence.
Le travail se fasse de manière professionnelle. Et que si ce qui a été constaté et dénoncé hier ne puisse pas se répéter, il faut que le travail se fasse avec beaucoup plus de professionnalisme. Il y a la présomption d'innocence qui est là, mais il faut que ce qu'on a déploré hier ne puisse pas se répéter. L'état de droit ne peut pas se construire dans les cris des orphelins, les pleurs des veuves, etc., dans le sang. Non, il faut qu'il y ait cette problématique du respect dedans. Voilà la quintessence de cette alerte-là. Pour que le travail puisse se faire en tenant compte de la protection des populations civiles.
Au lendemain de l'annonce ou de la déclaration de l'état des sièges, les autorités militaires avaient mis en garde tout le monde à faire des déclarations. Ne craignez-vous pas d'être indexé ou d'être accusé de démobiliser les troupes?
Non, pas du tout. Comme nous avons dit, nous sommes en train de soutenir totalement les décisions des plus hautes autorités du pays.
Le bâtonnier Dominique Kambala, directeur de l'ONG Société Congolaise pour l'État de droit. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Mandela-Kiza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de